Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, l'émission Un jour dans l'histoire aime comprendre, aime expliquer les causes des événements. Pris isolément, le général Bonaparte ne peut être compris. Replacez-le dans l'époque thermidorienne, il prend naturellement une toute autre dimension. Dans son histoire de la Révolution française, Jules Michelet ne fait que peu de cas des thermidoriens et du directoire. La période suivant la chute de Robespierre n'est à ses yeux qu'une aveugle réaction, je le cite, où l'horreur et le ridicule y luttent à force égale. De leur côté, les royalistes fustigèrent le régime qui laissa mourir au temple fils de Louis XVI, le jeune Louis XVII. Enfin, les bonapartistes ont la mémoire sélective et ne retiennent du directoire que la dimension militaire en oubliant la dimension politique, économique et même scientifique du régime. Pourtant, comme l'écrit Jean Tullard, il n'est pas excessif d'affirmer que les thermidoriens ont à peu près tout inventé de ce que pérenniseront le consulat et l'empire. L'institut, la conscription, le franc, il y a aussi le style directoire et même la fête des mères qui cette année sera célébrée un certain 29 mai. Jean Tullard, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes membre de l'institut, spécialiste incontesté de Napoléon et vous avez voulu rendre à César ce qui lui appartient. Vous venez en effet de publier une monographie sur les thermidoriens publiée aux éditions Fayard. Jean Tullard, on vous sait amoureux des images, notamment des images cinématographiques. Je parlerai tout d'abord de la couverture de votre ouvrage qui représente l'arrestation de Robespierre. Dans nos mémoires, les thermidoriens sont avant tout ceux qui ont renversé la figure la plus mystérieuse de la Révolution française. N'est-ce pas un peu réducteur de voir le directoire uniquement par opposition à la terreur ?
Par opposition à la terreur et par opposition au consulat qui suivra. La malchance des thermidoriens, c'est de se trouver entre deux époques qui ont beaucoup plus fasciné qu'eux-mêmes. D'une part, Robespierre, dont vous avez dit, c'est la figure la plus énigmatique de l'histoire, car en définitive, on ne sait pas tellement de choses de Robespierre qu'il ne se confie à personne. On ne connaît même pas ses intentions finales. Comme dit Cambacérès, l'un des thermidoriens, à Napoléon, c'est un procès qui n'a pas été jugé. Car je vous rappelle que Robespierre est bien passé devant le tribunal révolutionnaire, mais la veille, il avait été mis hors la loi. En conséquence, tout s'est limité à un simple contrôle d'identité et il a été envoyé directement à l'échafaud, alors qu'il avait à un moment donné espéré passer devant le tribunal révolutionnaire et s'y expliquer, comme s'y sont expliqués les deux autres grandes figures de la montagne, Marat et Danton.
Alors qui sont justement ces thermidoriens? Vous soulignez leur hétérogénéité. En fait, il n'y a pas d'unité politique chez ces hommes.
Oui, il y a simplement un déplacement de majorité à la Convention. Le 9 Thermidor, c'est un déplacement de majorité, comme nous en connaissons quelquefois dans notre histoire parlementaire. Mais lorsqu'il y a déplacement de majorité au Parlement, parfois, c'est parce qu'il y a deux blocs, le gouvernement et l'opposition. Mais il arrive aussi qu'il y ait des alliances contre nature, que l'extrême droite s'allie avec l'extrême gauche pour renverser le centre, etc. Rien n'est jamais homogène. Dans le cas des thermidoriens, il faut distinguer. Les thermidoriens, ce sont essentiellement ceux des représentants en mission qui avaient été pris à partie par Robespierre en raison des excès qu'ils avaient commis lorsqu'ils avaient été envoyés en mission. Certes, ils étaient envoyés pour faire régner la terreur, mais on peut dire que Carrier, Lebon, Fouché y ont parfaitement réussi. Mais Robespierre assignait à cette terreur une limite, la vertu. On devait terroriser, mais vertueusement. C'est pas aussi évident qu'il y paraît, et enfin, qu'il y paraissait à Robespierre, et en fait, Carrier, Barras et autres ont terrorisé, certes, mais pas vertueusement, surtout Tallien avec Teresa Cabarrus, qu'il sauve de l'échafaud à Bordeaux, Fouché qui en profite pour s'enrichir, Fréron aussi, Carrier qui se livre à des orgies, les fameux mariages républicains. Bref, c'est vrai. ces terroristes ont discrédité la terreur. Et Robespierre a parfaitement raison d'avoir pris conscience que la Révolution allait dans un gouffre dans la mesure où elle était victime de ses excès. Donc ces terroristes, Robespierre, tout puissant au comité de salut public, les a fait rappeler et avait l'intention de les faire guillotiner. C'est très net, il n'y en a qu'un qu'il nomme, c'est Fouché, qu'il haïssait particulièrement, parce que Fouché avait fait la cour, quand il était oratorien, à Arras, il avait fait la cour à sa sœur Charlotte. Et puis, il l'avait trouvé tellement laide qu'il l'avait renoncé. Lui-même, d'ailleurs, n'était pas très beau non plus. Et cela avait énormément froissé Robespierre. Et il y avait surtout, de la part de Fouché, dont les excès sexuels n'étaient en rien comparables à ceux de Barras, de Tallien ou de Carrier, il y avait chez Fouché la volonté de mener une politique de déchristianisation qui allait à l'encontre de ce que souhaitait Robespierre, l'établissement d'un culte de l'être suprême avec une idée, l'immortalité de l'âme. Or, Fouché était allé, involontairement d'ailleurs, à l'encontre de ce programme de Robespierre, puisque dans les cimetières de Nevers, il avait fait placarder cette inscription « La mort est un sommeil éternel ». Évidemment, pas d'immortalité de l'âme dans ces conditions. Et Robespierre l'apostrophe à la Convention lorsqu'il est rappelé en lui disant « Non, Fouché, la mort n'est pas un sommeil éternel ». Donc, ses représentants en mission sont voués à l'échafaud. Ils savent que c'est eux ou Robespierre. Ils n'auraient pas réussi à renverser Robespierre, même si l'on attribue à Fouché un rôle que l'on a exagéré, ils n'auraient pas réussi à renverser Robespierre s'ils ne s'étaient alliés aux membres des comités, comité de salut public et comité de sûreté générale, qui irritaient l'esprit de dictature de Robespierre. Il y avait là, au comité de salut public, notamment Billaud-Varenne, le rectiligne, comme on disait de Robespierre, l'incorruptible, et Billaud-Varenne soupçonnait, peut-être à juste raison, Robespierre d'aspirer à la monarchie. Donc, il y avait une haine entre, au moins, Carnot, qui se posait à Saint-Just pour les opérations militaires, entre Billaud-Varenne et Robespierre, entre Collot d'Herbois et Couthon. Bref, le comité de salut public était divisé. Plus grave pour Robespierre, le comité de sûreté générale, c'est-à-dire la police, avait pris ombrage de ce que Robespierre avait créé sa propre police avec un bureau de police au sein du comité, et Vadier, le chef du comité de sûreté générale, qui est l'homme, le chef de toutes les polices, comme nous dirions aujourd'hui, Vadier avait en grippe Robespierre. Il était très redoutable, car c'est lui qui a contribué déjà à faire tomber Danton. Il y a donc eu alliance des membres du comité de salut public hostiles à Robespierre et des représentants en mission.
Est-ce que ces gens ont conscience de réaliser un coup d'État ?
Non, il s'agit simplement de renverser Robespierre, mais en additionnant les représentants en mission et les membres des comités de salut public, vous n'avez pas la majorité à la Convention, car tout se joue par des la terreur, la révolution, ça se joue avec des déplacements de majorité. C'est parce que les Girondins n'ont plus la majorité qu'ils sont envoyés à l'échafaud. C'est parce que Danton n'a plus la majorité qu'il est renversé et envoyé à l'échafaud. Donc là, si on additionne les représentants en mission et les membres des comités de salut public, on n'a pas encore la majorité. Il a fallu gagner le Marais. Le Marais, les grenouilles du Marais, c'est le centre. Le centre qui laisse tout faire, que Sieyès, l'ex-abbé Sieyès, symbolise. L'idée de Sieyès, c'est évidemment d'éviter toute montée sur l'échafaud. Et lorsqu'on lui dit « qu'avez-vous fait sous la terreur ?», il répond « j'ai vécu ». Ce qui est effectivement résumé son programme. Donc, il y a là, dans le Marais, des gens qui vont rejoindre les adversaires de Robespierre. Eux ne risquaient rien, ils n'ont pas été envoyés à l'échafaud. Néanmoins, ils s'exaspèrent de l'attitude de plus en plus arrogante, de plus en plus cinglante de Robespierre. Ils ont des assurances du comité de salut public, des représentants en mission. Bref, voilà, les thermidoriens, ce sont donc, pour résumer, les membres des comités hostiles à Robespierre, les représentants en mission voués à l'échafaud en raison de leurs excès, et le marais que symbolisent Sieyès, Boissy d'Anglas et autres, qui sont des gens prudents qui attendent que ça passe. Vous voyez que cela ne constitue pas une majorité. Alors vous me posez la question, ont-ils eu le sentiment qu'ils faisaient un coup d'État ? Non. Simplement, Robespierre est mis en minorité à la Convention. Et donc, il est traduit en justice. Il doit être traduit devant un tribunal révolutionnaire. Mais, comme je l'ai déjà dit, Aymara et Danton ont été traduits, et les Girondins ont été traduits devant un tribunal révolutionnaire. Et Marat s'en est tiré. Et Danton s'en est fallu de peu. Si on n'avait pas mis un terme au débat, il est probable que Danton aurait été acquitté. Donc, Robespierre doit être jugé devant ce tribunal révolutionnaire. Ce qui se passe, ce ne sont pas les thermidoriens qui font le coup d'État, ce sont les partisans de Robespierre. C'est la Commune de Paris, à l'Hôtel de Ville, qui n'admet pas qu'on ait arrêté l'incorruptible et qui s'insurge contre la Convention, contre une décision légale de la Convention. Et celle-ci riposte en mettant Robespierre, et donc dans Saint-Just, Couthon, Lebas et le frère de Robespierre, et les membres de la Commune de Paris qui sont entrés en insurrection, et Henriot, commandant de la garde nationale, qui est entré en insurrection, on les met hors la loi. Donc, voyez, à partir de ce moment-là, vous avez l'impression que comme on guillotine sans jugement Robespierre, Henriot, Dumas et compagnie, il y a un coup d'État. Mais non, il n'y a pas de coup d'État. On est toujours dans la légalité. Et il y a si peu de coup d'État que le dit Thermidor, au soir, quand Robespierre a été guillotiné, aucun de ces vainqueurs, qu'il s'agisse du marais, qu'il s'agisse des représentants des comités, qu'il s'agisse des représentants en mission, aucun n'a le sentiment que la révolution s'arrête, que la révolution est finie. Les institutions ne bougent pas, on ne les a pas renversées. Tout, même le tribunal révolutionnaire avec Fouquier-Tinville continue à fonctionner. Il n'y a pas de coup d'État, il y a simplement un déplacement de majorité. Seulement, alors oui, je vous laisse.
Cependant, oui, il y a un besoin de réforme, malgré tout.
C'est-à-dire que seulement, il y a l'opinion. L'opinion qui interprète la chute de Robespierre, qui s'était si bien incarnée dans la terreur, justement ou injustement, il y a le sentiment dans l'opinion que c'en est fini de la terreur. D'ailleurs, la terreur n'avait plus de grande justification, puisque la Vendée avait été écrasée, puisque les royalistes de l'intérieur avaient été vaincus, que toutes les villes qui s'étaient insurgées contre le comité de salut public, Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulon, des villes avaient été reprises, et que, aux frontières, le danger depuis Fleurus était écarté, que même la Belgique était en train de passer sous notre autorité. La terreur avait sa justification. Il faut bien le dire, c'était un moyen de terroriser l'ennemi parce que la situation à l'été 93 a été pour Paris catastrophique. Partout des villes qui s'étaient soulevées sous l'impulsion des fédéralistes, c'est-à-dire des Girondins, toutes les frontières enfoncées et la Vendée en état d'insurrection. Donc il fallait riposter par un gouvernement révolutionnaire dont l'instrument était la terreur. Mais alors que les autres continueraient, parce qu'au fond, ça les arrange, les vainqueurs de Robespierre, ils ne divergent pas de Robespierre, sont les mêmes, ceux qui étaient à la montagne, ou qui étaient, enfin, qui de toute façon étaient à la Convention. Mais l'opinion dit, on arrête. Et on va stigmatiser ces gens sous le nom de thermidoriens, parce qu'ils ont fait le neuf thermidor.
Alors, est-ce que les thermidoriens sont à droite ? Par opposition à cette terreur qui, et ces montagnards qui, eux, étaient à gauche.
Vous voyez que souvent, ils sont même plus à gauche que Robespierre, puisqu'ils allaient plus loin que Robespierre. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, étaient prêts à s'orienter vers la restauration d'une monarchie, mais constitutionnelle. Il n'y a pas d'homogénéité. Et donc, il y a ceux qui sont des extrémistes et ceux qui sont des modérés. Et ce qui se passe ensuite, ben ça ne s'arrête pas aux neuf thermidors, eh bien, les premiers à être éliminés, ce seront les terroristes. C'est-à-dire le rectiligne Billaud-Varenne et les membres des comités Vadier et autres qui avaient été associés à la terreur. Une partie des représentants en mission, Fouché, est mis sur la touche. Il échappe à l'échafaud, mais Carrier et Lebon sont guillotinés. Bref, il y a une réaction, ce sont les modérés qui, portés par l'opinion, éliminent tout ce qui est resté de terroristes et d'extrémistes. Donc d'emblée, les thermidoriens à peine vainqueurs se divisent et ce sont ceux qui ont été le plus compromis dans la terreur qui sont écartés.
Je reçois Jean Tullard, auteur du livre Les Thermidoriens. Il s'agit d'une monographie qui vient de paraître aux éditions Fayard. Jean Tullard, nous nous retrouvons dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean Tullard, historien, membre de l'Institut, spécialiste de Napoléon, qui vient d'écrire et de publier un ouvrage intitulé « Les Thermidoriens » paru aux éditions Fayard. Donc nous tentons de décrire ce phénomène politique formé par ce groupe des Thermidoriens. Il y a, une fois la prise de pouvoir des Thermidoriens réalisée, il y a malgré tout une opposition et il y a toujours un péril au fond à droite et à gauche. D'un côté le péril royaliste et d'autre côté le fameux babouvisme. Alors comment le directoire lutte-t-il contre d'abord le péril royaliste ?
Vous avez en effet deux périls, comme vous le dites très bien, le fait que les royalistes, voyant la chute de Robespierre, on sentit leurs espoirs décuplés. Il était manifeste que l'opinion souhaitait que la révolution s'arrête.
Et donc, il y a encore des royalistes en 1794.
Ils étaient cachés. Il y a ceux qui ont émigré, mais les émigrés vont commencer à rentrer après la chute de Robespierre. Il y a encore en Vendée des forces profondes. Et par conséquent, il y a tous ceux qui se disent que là, la révolution ne peut se terminer que par le rétablissement d'une monarchie qui serait la monarchie constitutionnelle. Et de l'autre côté, il y a ceux qui considèrent que la révolution n'est pas arrêtée, qu'elle doit aller beaucoup plus loin dans le domaine social. Robespierre, malgré les décrets de Ventose, qui étaient une promesse de partage de biens nationaux, malgré les déclarations de Saint-Just sur les pauvres sont les puissants de la terre, bref, ça relevait beaucoup de la démagogie. Mais il y a des gens qui pensent que la révolution est avant tout une révolution sociale et non pas seulement politique, et qu'il faut maintenant passer à l'autre stade, c'est partager la terre. Ce sont les babouvistes qui sont les premiers communistes de notre histoire. Simplement, leur vision est limitée à la terre parce que on ne peut pas, on n'a pas encore les moyens de production qui font que l'on puisse penser. Il n'y a pas de prolétariat ouvrier comme on va en voir apparaître avec la révolution industrielle. Là, ce sont des ouvriers dans des petits ateliers qui ne peuvent pas se regrouper. Donc le grand problème social, c'est celui de la terre qu'il faut partager, de là le nom donné aux babouvistes de partageux, pour que les pauvres aient aussi leur lopin de terre à cultiver. Donc le directoire est pris entre ces deux menaces, l'une à gauche et l'autre à droite. La menace babouviste n'était pas la menace la plus redoutable, parce que au fond, il aurait fallu qu'il pénètre profondément les milieux paysans, mais les paysans viennent d'avoir des terres. Il y a eu la vente des biens nationaux, donc on est en train de digérer cette vente des biens nationaux. Bref, les babouvistes seront très facilement éliminé à la suite d'une provocation et Babeuf sera guillotiné. Il n'y a jamais eu de véritable péril. Le péril, il est royaliste. Il est royaliste parce que, effectivement, les Thermidoriens ne peuvent pas rétablir leur roi. Et pourquoi ne le peuvent-ils pas? Parce que, à la mort de Louis XVII, qui, entre parenthèses, et je le dis dans le livre, est manifestement mort au temple. Bien entendu, il y a toujours un doute.
Vous revenez, oui, sur l'analyse ADN, etc.
Bon, il y a toujours un doute, mais malgré personne n'ayant jamais expliqué de façon rationnelle et avec des documents comment Louis XVII se serait évadé du temple, il faut bien considérer qu'il est mort au temple. Simplement, Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le corps de l'enfant. On a retrouvé des corps, mais qui ne correspondaient pas. Et simplement, on a le cœur de Louis XVII. Du moins, peut-on raisonnablement penser qu'il s'agit du cœur de Louis XVII et non du cœur de son frère aîné qui était mort avant. L'analyse du cœur, l'examen du cœur semblerait bien prouver que c'est un cœur qui a été prélevé au moment de l'autopsie de la mort de l'enfant du temple. Mais où est enterré le corps de l'enfant? Ça, on ne le retrouvera plus. Il y a eu depuis des parkings, il y a eu des mouvements. Bref. En tout cas, Louis XVII en mort au temple, c'est son oncle, le comte de Provence, qui lui succède sous le titre de Louis XVIII. Et le comte de Provence, devenu Louis XVIII, lance immédiatement une proclamation, la proclamation de Vérone, où il déclare que dès qu'il sera remonté sur le trône, d'abord il fera payer à tous les régicides, et je vous rappelle que les Thermidoriens ont une large part de régicides, il leur fera payer très cher l'exécution de son frère, alors qu'il devrait, entre parenthèses, en être reconnaissant, car sans eux il ne serait pas Louis XVIII, et qu'il rétablira l'ancien régime dans son intégralité, c'est-à-dire retour à la féodalité, aux droits féodaux, remise en question des ventes de biens nationaux. Bref, le discours que tient Louis XVIII est extraordinairement maladroit, et en tout cas, les Thermidoriens...
Il est paradoxalement révolutionnaire.
Et donc, je dis en 1795, car en 1814, lorsque Talleyrand le rétablira sur le trône, Louis XVIII acceptera tous les changements de la Révolution. Mais en 1795, il est encore intransigeant, il n'a pas souffert, comme Louis XVIII va souffrir, dans l'exil, la pauvreté, les difficultés. Bref, il n'est pas encore raisonnable. Donc, on ne peut pas restaurer la monarchie. Les royalistes vont tenter d'abord de s'emparer du pouvoir par un coup de force. Ce sera la journée du 13 Vendémiaire, lorsque les sections de la rive droite de Paris marchent sur la Convention. Ce coup d'État aurait pu réussir s'il y avait eu un chef de talent, mais Danny Kahn n'était pas véritablement un chef militaire, et s'il y avait eu en face un jeune général que Barras fait appeler, qui est le général Bonaparte, qui, grâce au canon que lui apporte Murat, va écraser l'insurrection. On voyait encore sur l'église Saint-Roch les traces des boulets, jusqu'à ce que un architecte des monuments historiques, vraiment dans ce monde, a cru malin de restaurer la façade et d'effacer les traces des boulets. Vous savez, qu'est-ce que ça, c'est l'inculture règne maintenant de façon redoutable dans toutes les institutions. Bref, le coup d'État royaliste du 13 Vendémiaire est écrasé très facilement par les conventionnels. Les royalistes ne sont pas pour autant découragés, car la Constitution de 1795 prévoit des élections. La Constitution de 1795, qui est l'œuvre des Thermidoriens, donne le pouvoir exécutif à 5 directeurs et le pouvoir législatif à 2 assemblées, pour éviter la dictature d'une seule, le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens. Et on renouvelle par tiers, tous les ans, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500. Donc, les royalistes pensent qu'il n'y a qu'à attendre les élections. Et comme le pays en a assez des révolutionnaires, en a assez des thermidoriens, parce qu'ils sont quand même des gens de la Révolution, les renouvellements permettront à un moment donné de faire en douceur, par la voie légale, ce qu'on a raté le 13 Vendémiaire, faire en douceur la restauration du roi. Mais, bien entendu, les thermidoriens vont les prendre de vitesse. D'abord, le décret des 2/3 qui obligera les électeurs à reprendre 2/3 des conventionnels sortants. Et ensuite, alors que l'année suivante, la majorité, enfin le renouvellement du 1/3 assure une majorité royaliste, ce sera le coup d'État du 18 Fructidor. On est pris désormais, sur le plan politique, dans une série de coups d'État. Chaque année, il y a une des élections, renouvellement du Conseil des Anciens et du Conseil des 500, et chaque année, il y a un coup d'État. Un peu comme, si vous voulez, puisque nous sommes dans une période d'élection, après le référendum, coup d'État, après ensuite l'élection des députés, coup d'État. Et c'est ce qui a contribué à discréditer la période dite de la Convention thermidorienne et du Directoire, c'est cette suite de coups d'État annuels.
Dans la nature même de la Constitution, on a l'impression qu'il y a une opposition entre, d'un côté, le pouvoir exécutif, de l'autre côté, le pouvoir législatif.
Il n'y a pas opposition, il y a séparation. Selon le principe de Montesquieu, on sépare les trois pouvoirs. Les juges sont élus, donc ils échappent. Les deux conseils sont élus et l'exécutif, cinq directeurs, est élu, mais par le Conseil des Anciens sur proposition du Conseil des 500. La séparation des pouvoirs est trop grande. On l'a appliquée de façon absolue. Le résultat, c'est que si vous avez un conflit, eh bien, vous ne pouvez le résoudre par un coup d'État. Nous avons vu avec la Constitution de 1958 une majorité, disons, socialiste et un président de la République de droite. Donc nous avons eu une coexistence Chirac-Jospin. Il n'y a pas eu. Tandis que s'il y avait eu la Constitution de 1795, où Jospin faisait arrêter Chirac, ou Chirac faisait arrêter Jospin. Bref, il y avait inévitablement affrontement. Là, le principe de la dissolution et le principe du régime parlementaire font que il y a bien séparation entre l'exécutif et le législatif, mais la séparation n'est pas aussi totale qu'en 1795.
Les thermidoriens veulent instaurer une république bourgeoise.
Oui, finalement, pour eux, la révolution est terminée. Il y a eu un transfert gigantesque de propriété qu'on ne peut pas encore chiffrer parce que les recherches sont insuffisantes.
Mais qu'il s'agit de conserver pour eux.
Oui, c'est-à-dire que les biens d'église qui étaient importants mais très dispersés, ont été nationalisés, ainsi qu'une partie des biens des immigrés, ont été vendus, et donc des représentants des bourgeois des villes de province, de la petite bourgeoisie rurale, vous savez, le cabaretier, le menuisier, etc., ont acheté ces biens. Ils les ont eus pour pas cher, parce qu'ils les payaient en assignat dévalué. Le personnage le plus typique des acquéreurs de biens nationaux, j'y renvoie à nos auditeurs, c'est le père Grandet dans Eugénie Grandet. Il est là, c'est un menuisier, c'est un petit notable d'une petite ville de province, et il a la dot de sa femme, il a un peu d'économie, et il achète des terres, il les achète à bas prix. Il y a eu un immense transfert de propriété dans les campagnes et l'apparition d'une bourgeoisie rurale. Il y a ensuite dans les villes tous ceux qui ont spéculé sur les fournitures aux armées, sur la dévaluation de l'assignat. Bref, il y a une nouvelle classe bourgeoise. Et cette nouvelle classe bourgeoise, alors que les rentiers de l'ancien régime ont été ruinés, nous allons y revenir, par la banqueroute des deux tiers, il y a une nouvelle classe qui est en place, et cette nouvelle classe entend maintenant y rester. Et elle y restera, puisque vous allez les retrouver sous Louis-Philippe.
Donc il s'agit bien d'une république conservatrice. Je reçois Jean Tullard, auteur du livre « Les Thermidoriens ». Jean Tullard, vous êtes membre de l'Institut. Nous nous retrouvons après une seconde pause. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales, Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie.
On retrouve Christophe Dickès.
Merci d'être fidèle à Canal Académie. Un jour dans l'histoire reçoit Jean Tullard, membre de l'Institut, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur du livre « Les Thermidoriens », son dernier ouvrage publié aux éditions Fayard. Alors, nous découvrons ce directoire, les limites, nous parlions des limites du directoire, la nature du directoire. Pourquoi cette constitution finalement échoue sur le plan politique?
Elle échoue parce que elle a établi une séparation trop forte des pouvoirs, parce que elle a un exécutif collégial, donc ça devient ingouvernable, et elle échoue parce que, en définitive, elle est constamment violée elle-même. Dès le 18 Fructidor, on ne respecte pas la convention, enfin la constitution, puisque on casse des élections. On est constamment dans un climat d'illégalité. Mais je voudrais bien insister sur ce fait que c'est tout ce que l'on retient du directoire, c'est-à-dire des thermidoriens ayant éliminé les terroristes qui sont au pouvoir. C'est tout ce qu'on retient et c'est une image complètement inexacte.
Il y a une légende noire.
Il y a une légende noire justifiée par ces coups d'État, par cette atmosphère d'illégalité, alors que la France est en train de se transformer profondément. Vous l'avez dit en introduisant cette émission, c'est une époque de grandes réformes. Ces réformes ont été rendues possibles par la décision du directoire, c'est-à-dire du ministre des Finances directoire Ramel, de faire la banqueroute des deux tiers. En effet, pourquoi la monarchie est-elle tombée? La monarchie est tombée en 1789 à cause de l'importance de la dette publique. Les différents gouvernements avaient emprunté, énormément emprunté, et vous savez, quand on emprunte, ben, il y a des intérêts à verser. C'est ce qu'on appelait la dette publique. Le roi ne pouvait plus faire face aux échéances de la dette publique. Il n'avait qu'une solution, c'était de faire banqueroute. Si Louis XVI avait fait banqueroute en 1789, nous n'aurions pas eu la Révolution. Mais le roi a voulu essayer de faire des réformes financières, c'est-à-dire de lever de nouveaux impôts, et ça, il ne pouvait le faire en fonction d'une loi fondamentale du royaume, loi non écrite, qu'en convoquant les États généraux. Et à partir du moment où il a convoqué les États généraux, évidemment, il a été pris dans un engrenage qui l'a emporté. Donc, cette mesure fondamentale, c'est le directoire qui l'a fait. Il déclare que chaque fois que vous avez prêté 300 livres à l'État, eh bien, on ne vous versera plus d'intérêt désormais que sur 100 livres. Mais je vois votre visage qui se décompose, mais soyez assurés, dit le directoire, que nous vous verserons les intérêts sur ces 100 livres. C'est juré, c'est sûr, certain. Et ces gouvernants du directoire, qui ont déjà le sens des relations publiques, ne disent pas « nous venons de faire la banqueroute des deux tiers », ils appellent ça « le tiers ». Consolidé. Vous voyez toute la nuance.
La politique est un langage.
La politique est un langage et il faut savoir communiquer. Donc, pour eux, c'est le tiers consolidé. C'est sachez que la situation financière est dramatique, mais grâce à notre éclatant génie, eh bien, vous avez quand même un tiers des intérêts qui sont sauvegardés. Cette réforme permet de renflouer les finances de l'État. Vous allez vers un budget en équilibre, puisque vous éliminez une grande partie de ce qui pesait, c'est-à-dire de la dette publique. Et dès lors, vous voyez que vous pouvez vous lancer dans une politique de réforme, que vous pouvez stimuler l'industrie. L'industrie a connu à ce moment-là un grand développement que symbolisent les premières expositions. Ce sont ce que j'appelle les thermidoriens, c'est maintenant le directoire, qui organise ses premières expositions. Il y aura des grandes expositions universelles où l'on voit exposer les grands produits de l'industrie française. C'est le moment où l'agriculture redémarre. Et c'est aussi, car ce sont ces thermidoriens, les gens des Lumières, c'est aussi les grandes réformes intellectuelles. La création de l'Institut où nous sommes, la création de l'Institut, mais qui à l'époque n'était pas encore dans le Collège des Quatre Nations, la création de l'Institut, nous la devons aux thermidoriens. Sans eux, ben, nous ne serions pas là, il n'y aurait pas de Canal Académie. Nous devons aux thermidoriens une institution qui fait encore rêver toutes les mères et toutes les belles-mères. L'école polytechnique, avoir un fils ou un gendre polytechnicien, c'est le sommet de la réussite. Nous le devons aux thermidoriens. L'école normale supérieure est créée par eux. Le conservatoire des arts et métiers,
Il y a ce que vous qualifiez le triomphe des Lumières,
oui.
Avec tout ce mouvement scientifique, vous citez tous les scientifiques qui
oui.
peuvent faire partie de ces différents instituts, on est vraiment surpris par cette volonté intellectuelle, par cette substance, par ces hommes tout simplement qui font la grandeur de l'Institut et de toutes ces académies.
À jamais l'Institut n'aura eu autant de noms illustres qu'à ce moment-là. Monge, Berthollet, Legendre, Laplace, Geoffroy Saint-Hilaire, Cuvier, Parmentier. Bref, c'est pour ça que je les ai énumérés. Vous vous apercevez que vous avez presque un plan de Paris qui se retrouve là, rue Monge, rue Berthollet, etc. Je dis souvent à mes étudiants que si ils échouent aux examens, ils auront toujours, en suivant mes cours sur la Révolution et l'Empire, la possibilité de devenir chauffeur de taxi. Car si vous continuez avec l'Empire, avenue des Lots, avenue de Friedland, Tilsit, etc. Bref, en tout cas, vous voyez que sur le plan scientifique, le mot que l'on a attribué à la terreur, la République n'a pas besoin de savants, qui est un mot apocryphe, et qui ne s'applique plus au thermidorien. Maintenant, les savants sont honorés. Et ça va aller très loin, car l'expédition d'Égypte est une expédition scientifique. Bien entendu, il y a des arrière-plans politiques. Bien entendu, il y a la volonté d'aller créer de nouvelles colonies, puisqu'on a perdu les Antilles. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un côté scientifique, que si vous regardez la fameuse description de l'Égypte qui sera le résultat de cette expédition, c'est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus beaux livres de l'histoire de l'édition française. Et que finalement, grâce à la pierre de Rosette, on va déchiffrer les hiéroglyphes. Bref, les Lumières triomphent avec eux. Et les discréditer, c'est au fond discréditer les Lumières. C'est ce que j'ai voulu montrer. C'est quand même un grand moment intellectuel. Allons plus loin. C'est le grand triomphe des libertins. Car c'est l'époque où Sade republie Justine. Vous savez, il y a trois moutures de Justine et c'est la Justine la plus harde, si vous
voulez. Nous sortons de la vertu de Robespierre qui était très puritain, disons.
C'est fini, qui avait envoyé d'ailleurs Sade à Picpus. Mais donc Sade publie Justine puis Juliette et Rétif de la Bretonne lui répond, parce qu'il est scandalisé, en écrivant une anti-Justine qui est encore plus cochonne que la Justine de Sade, c'est Nertia avec ses Aphrodites. Bref, c'est une explosion du libertinage et de la littérature libertine. Laclos est remise en liberté. Bref, on croise dans Paris toutes les grandes figures du libertinage et cela passe dans les mœurs, avec notamment les incroyables et les merveilleuses, puisque vous savez qu'on prononce, on avale les R à cette époque. Pour quelle raison? Parce que R, c'est révolution, sans doute. Enfin, on ne sait pas exactement cette prononciation adoptée par les incroyables et les merveilleuses, mais les merveilleuses se promènent quasiment nues, voilées de gaz. Ce sont des tenues bien plus osées que nos mini-jupes et autres. Ça va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, ça suscite une certaine indignation chez les vieux révolutionnaires ou les vieux puritains, car il y a une très grande liberté des mœurs.
Il y a, à côté de, il y a, comme vous l'avez expliqué, un triomphe de la Révolution, un triomphe des Lumières. On a aussi tendance à oublier que c'est en 1795 qu'a lieu la première séparation de l'Église et de l'État.
Alors, nous y arrivons. Nous arrivons à ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est-à-dire la séparation de 1905, la séparation de l'Église et de l'État en 1795, et d'ailleurs, comme la séparation de 1905, décidée dans un esprit hostile à l'Église, ce qui n'était pas le cas au départ. Lorsque l'on a voté la constitution civile du clergé, c'était pour indemniser l'Église dont on avait nationalisé les biens. À partir du moment où vous nationalisez, vous devez indemniser, c'est la règle. Donc on a proposé au clergé, pour pouvoir continuer à dire la messe, opérer certains actes charitables, on a proposé au clergé un traitement. Ce traitement en faisait un clergé de fonctionnaire donc principe de l'élection pour tous les fonctionnaires. Et voyons, on est pris dans un engrenage où on a oublié une chose, c'est de prévenir le pape. Parce que nous sommes dans une atmosphère gallicane. Et donc, on n'a pas prévenu le pape. Et progressivement, l'Église s'est opposée à la Révolution. On est arrivé à un conflit avec cette politique de déchristianisation que symbolisait, par exemple, Fouché. Bref, c'est un engrenage qui a conduit à un affrontement. Un affrontement, alors les thermidoriens, logiquement, disent, eh bien, plus de raison, on ne on va plus continuer à subventionner un clergé qui, dans une grande majorité, ne nous est pas favorable, même ceux qui ont accepté de jouer le jeu comme l'abbé Grégoire. Et en même temps, vous voyez que derrière ce qui est une logique, bon, l'Église ne nous aime pas, eh bien, allez-vous voir, faire voir ailleurs. C'est en même temps, évidemment, un calcul, car l'Église a perdu sa fortune, puisqu'elle a été nationalisée. Les bâtiments, tout y est passé, les terres, les objets du culte. Donc l'Église est devenue pauvre. Elle ne vit plus que des traitements, des subventions du gouvernement. Si on sépare l'Église et de l'État, et si on ne donne plus de traitements, ne donne plus de subventions, l'Église est condamnée à disparaître. Donc c'est à la fois un raisonnement logique et en même temps la volonté de détruire l'Église. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que si l'on détruit l'Église, on substitue à la morale chrétienne une morale civique. Vous avez évoqué la fête des mères. Il y a la fête des mères, la fête des maris, la fête des fils, etc. Il y a une morale nouvelle qui est fondée, une morale laïque, qui remplace la morale religieuse. Et vous voyez combien c'est moderne, puisque ça vous annonce la morale laïque des instituteurs et autres. Les thermidoriens, en apparence, certes, mais c'est un épiphénomène. Ils lisent bon, le Marquis de Sade, ils regardent des beautés seulement gazées. Mais en fait, ils veulent rétablir une autre morale. Alors bon... Ce qui les dessert, c'est qu'effectivement, cette morale, on ne la sent pas passer dans les faits. Il y a d'abord une morale religieuse, ce sont les théophilanthropes, religieuse, laïque, et les théophilanthropes, qu'on resurnomme les philos en troupe, n'ont aucun succès, parce que leur chef de file, c'est Larvellière Lépaud, qui est membre du directoire, qui donc pourrait imposer cette nouvelle religion. Religion, je vous dis, échappant à Rome, religion presque laïque. Mais Larvellière n'y réussit pas. Il y a un joli mot de Barras qui lui dit « Tu ne pourras jamais réussir à fonder une nouvelle religion. » « Ah, dit l'autre, pourquoi ?»« Eh bien, tout simplement parce que tu es bossu. »« Ah, et pourquoi ?»« Eh bien, parce qu'on ne pourra jamais être crucifié ou alors à l'envers. » Voilà, donc le ton, ce qui vous montre, les taux philanthropes n'ont pas été pris au sérieux. Mais il y a aussi la morale laïque, la morale républicaine qui est proclamée. Alors bien sûr, encore une fois, dans le même temps, on invente la gastronomie. Alors, on invente les plaisirs de la chair et de la bonne chair.
Ce profit, en tous les cas, cette jouissance, nous allons, Jean Tullard, en reparler après une dernière pause. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie. Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean Tullard. Jean Tullard, vous êtes membre de l'Institut, vous venez de publier Les Thermidoriens aux éditions Fayard. Alors nous évoquons l'époque du directoire, le directoire a son style et le directoire sait profiter des plaisirs. Est-ce qu'il n'a pas un peu l'image d'une décadence ?
Si, d'ailleurs vous avez employé un joli mot, vous avez dit le directoire a son style. Effectivement, il y a le style directoire qui montre qu'au fond, il y a tout un mouvement artistique. Il y a David qui reparaît, le théâtre retrouve son activité, alors que ça avait été très... Il y avait une censure implacable sous la terreur. Bref, tout renaît à la vie. Et en même temps, c'est effectivement... Vous dites... à juste titre, une époque de décadence. Mais le sentiment dominant, c'est un sentiment plutôt de résurrection. On n'a pas l'impression qu'on est sur une pente fatale, qu'au contraire, on a remonté cette pente parce que tous ces gens ont échappé à la guillotine. Il faut dire que pendant une année au moins, ça a été véritablement la terreur à Paris. Personne ne savait s'il n'allait pas être arrêté, s'il n'allait pas être transféré dans une prison, s'il n'allait pas passer à la conciergerie. Tous les jours, vous aviez des exécutions capitales. Et pas seulement à Paris, mais en province aussi, quand il n'y avait pas les noyades de Nantes. Ce qui fait que c'est plutôt une explosion... En se disant, il faut profiter de la vie au maximum, mangeons, mangeons, car n'oubliez pas aussi que pendant la terreur, le pain était rare. Certes, il y avait des privilégiés, mais il y avait des famines. La situation s'est redressée et puis apparaît la gastronomie telle que l'imagine Talleyrand, Cambacérès et autres, et qui va connaître son apogée sous l'Empire avec un Napoléon qui ne lui mange en 10 minutes et se contente d'une cuisse de poulet et de quelques nouilles. Arrosé de Chambertin, il est vrai. Donc, il y a en même temps... le sentiment que la révolution n'est pas terminée. La révolution n'est pas terminée puisque on continue chaque année à voir des coups d'État. Il y a un péril royaliste, on va voir ressusciter le péril jacobin. Bref, nous sommes dans une époque où il n'y a pas de gouvernement.
Vous parlez d'une administration sans État aussi.
Oui, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'autorité gouvernementale. On a l'impression qu'on est dans une espèce d'anarchie agréable, certes, parce que bon, c'est plus... même s'il y a quand même des déportations, notamment des persécutions des prêtres, pour les privilégiés, donc c'est une vie plus agréable, évidemment, sous la terreur. Mais la révolution n'est pas finie. Et il y a ceux qui s'interrogent en se disant... comment terminer cette révolution, c'est-à-dire stabiliser. Les conquêtes sociales sont faites. Destruction de la féodalité, le paysan, maintenant, n'a plus sur lui le poids des droits féodaux. Tous ceux qui voulaient placer leur argent ont acheté des biens nationaux, donc ils sont devenus propriétaires, ils ont des maisons, ils ont des châteaux, bref. Tout va bien sur ce plan. Et l'idée d'égalité a fini par triompher. Mais tout cela, il faut le stabiliser politiquement. Car la Constitution de 1795, comme vous l'aviez très bien dit, a mal fonctionné. Et donc chaque année, on a un coup d'État. Chaque année, tout est remis en cause. La stabilité politique devient l'élément essentiel. Alors, on sait, depuis Robespierre... depuis avril 1792, comment ça se terminera? C'est très curieux, c'est que les contemporains ont su, peut-être même dès juillet 89, comment la révolution se terminerait. Elle se terminera par un général qui rétablira l'autorité.
Par une dictature.
Par une dictature militaire. Lorsque le maréchal de Broglie essaie d'écraser les insurgés de juillet 89, il est convaincu qu'il est le sauveur. Bouillet le croira aussi, Pichegru l'a cru, Dumouriez l'a cru, Lafayette l'a cru, et on sait en 1799 que ça va finir comme ça. Alors, on cherche un général. On a, à un moment donné, pensé à ce général que je vous ai évoqué, là, l'homme qui avait écrasé les insurgés le 13 Vendémiaire, le général Bonaparte. Je ne trouvais plus son nom. Eh bien, le général Bonaparte s'est couvert de gloire en Italie, mais... il s'est couvert de gloire trop tôt. Quand il est rentré à Paris, couvert de gloire, et donc pouvant faire éventuellement le coup d'État, le directoire venait d'écraser les royalistes aux 18 Fructidor et avait retrouvé une très grande autorité. Donc Bonaparte ne pouvait pas le renverser. Et donc Talleyrand lui a dit, si vous ne faites rien, on va vous oublier. Alors, je vous suggère, j'ai repéré dans mes cartons des archives du ministère des Affaires étrangères,
relations extérieures,
une opportunité en Égypte. Donc, allez vous couvrir de gloire en Égypte, et puis ensuite, vous reviendrez faire le coup d'État. Il est bien allé en Égypte, mais il ne peut plus revenir. Il est prisonnier de sa conquête, Nelson ayant coulé sa flotte. Donc, Bonaparte a disparu. Moreau se suce le pouce, demande l'avis de sa belle-mère, donc c'est pas un général de coup d'État. Bernadotte est extrêmement ambigu, discrédité politiquement, c'est un jacobin, on ne sait pas très bien ce qu'il veut. Alors il reste un jeune général, Joubert. Et Sieyès l'a remarqué, il a un avantage, c'est que Joubert a connu Fouché, devenu ministre de la police, en Italie. Ils se sont rencontrés à Milan. Par ailleurs, Joubert va épouser une demoiselle Semonville, qui est très, très liée à Talleyrand. Bref, un triumvirat Sieyès, Talleyrand, Fouché, c'est ce qu'on peut faire de mieux, pense que Joubert doit être l'homme qui va mettre fin à la Révolution. Ce sera le sauveur, il appuiera son sabre sur la table du gouvernement et tout le monde se calmera. En même temps, chacun, Sieyès, Talleyrand, Fouché, a déjà jaugé Joubert. On le manipulera sans trop de problèmes. Mais il aura l'autorité militaire. Seulement, il manque une chose à Joubert, par rapport à Moreau, par rapport à Bonaparte, c'est qu'il n'a pas de grande victoire à son actif. Il était certes à Rivoli, il s'y est illustré, mais enfin, sous l'autorité de Bonaparte. Il faut donc qu'il remporte une grande victoire. Or, chance, la guerre a repris, et on invite donc Joubert à aller se couvrir de gloire en Italie, puisque maintenant c'est l'Italie où on se couvre de gloire, à aller s'opposer aux Russes et au général russe Souvarov, qui est en train de chasser les Français de la péninsule italienne. Alors Joubert y va. Joubert, parfaitement compris, il se met à la tête de ses troupes, il y a les Russes en face, il dit « En avant !» Et une balle en plein front anéantit tous les espoirs
de Joubert.
De Joubert et aussi de Sieyès, de Fouché. Et de... Donc, ce ne sera pas le général qui fera la fin de la Révolution, qui terminera la Révolution. C'est au moment où tout est vraiment par terre, qu'on se demande comment ça va se terminer, que l'on apprend que Bonaparte a réussi à quitter l'Égypte et vient de débarquer dans le midi de la France.
Vous dites dans votre conclusion qu'il manquait un homme d'État, que cet homme d'État aurait pu être Talleyrand ou bien même Fouché, mais ils sont trop marqués par la Révolution française.
Oui, ils étaient discrédités. Talleyrand était quand même un évêque apostat. Fouché s'était couvert de sang, enfin, relativement un peu quand même, dans la plaine des Brotteaux. Barras était trop jouisseur. Sieyès était un personnage trop frêle, trop homme de l'ombre, pour véritablement avoir l'envergure d'un homme d'État qui déclarait « La Révolution, maintenant, c'est terminé. On rentre dans nos foyers et on devient sage. » Le seul qui va pouvoir le faire, c'est Bonaparte.
Qu'a fait Bonaparte que n'ont pas fait les Thermidoriens ?
Bonaparte a continué les Thermidoriens, c'est-à-dire les réformes engagées, réformes financières, réformes de l'enseignement, puisqu'il y avait déjà les écoles centrales qui vont devenir les lycées, les grandes écoles, etc. Bonaparte a continué les Thermidoriens, mais ce qu'il a fait et qu'avait manqué les Thermidoriens, c'est qu'il a restauré l'État de Richelieu, l'État de Robespierre.
Il y a une différence aussi sur le plan ecclésiastique. L'Église, Bonaparte va se diriger vers un concordat, alors qu'il y a une volonté réelle de la part des Thermidoriens de séparer de l'Église.
Oui, il se rend compte que le plus sûr moyen, c'est d'avoir le clergé à sa disposition, en le fonctionnarisant. Ou bien vous le laissez libre, et vous ne donnez pas d'argent, ou bien vous la servissez en lui donnant de l'argent. Et c'est là, c'est le grand problème que j'avais posé lors de la séance solennelle de l'Institut sur la loi de séparation de 1905 en présence de Monsieur le Premier ministre, c'est que l'Église est un choix où elle accepte d'être pauvre mais libre, ou asservie mais riche et couverte d'honneur. Alors la réponse, c'est à l'Église à la donner, et ce sera à notre confrère, le pape Benoît XVI, qui fut le cardinal Ratzinger dans cette maison, d'apporter une réponse, s'il souhaite en apporter une.
Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup, Jean Tullard. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « Les Thermidoriens » paru aux éditions Fayard, une émission, au fond, qui vient dans la continuité de notre précédente émission sur le sacre de Napoléon, puisque Napoléon va conserver également les acquis de la Révolution et sur la question féodale et sur la question des biens nationaux. Merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt.